Place aux mots, aux récits et aux auteurs de Dordogne. Voici la rubrique littéraire sur Happy Radio. Happy
Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique littéraire sur Happy Radio. Aujourd'hui, on met à l'honneur un livre qui raconte une véritable traversée de la Dordogne politique, 50 ans de vie politique en Dordogne. Son auteur n'est autre que le Bernard Cazot, médecin devenu maire à Ribérac, président du Conseil Général et sénateur, un homme qui a marqué la vie politique locale pendant un demi-siècle. Bernard Cazot est avec nous ce matin dans les studios d'Happy Radio. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Vous êtes médecin de formation, installé à Ribérac en 1968, si je ne me trompe pas. Racontez-nous comment un médecin de campagne devient maire, puis figure centrale de la vie politique départementale.
Écoutez, c'est comme beaucoup, très souvent en politique, pas toujours, mais très souvent, c'est arrivé par hasard.
C'est le hasard total.
Oui, parce que, a priori, j'étais dans une situation de médecin de campagne, médecin urbain et de campagne, il y avait les deux là, à Ribérac, et j'étais dans la mise en place d'une clientèle, donc les premières années, c'est toujours des années de prospection.
Oui, rencontrer les gens.
Et il faut rencontrer les gens, il faut s'habituer au pays. J'étais d'origine bordelaise, moi, j'étais venu par hasard aussi en Dordogne, et donc j'avais pas de raison particulière de vouloir faire de la politique. Quoique, pendant mes études, j'étais quand même déjà très intéressé par la chose. Et dans le cadre étudiant, j'avais déjà un peu milité.
Donc, il y avait déjà quelque chose...
Oui, j'avais déjà milité dans le cadre étudiant, mais de manière assez peu importante quand même. C'est arrivé tout à fait par hasard, parce qu'on m'a demandé... de participer à une liste municipale. C'était bientôt le municipal, donc. C'était dans les années 71.
Tout à fait.
Après, des hésitations, parce que on part pas comme ça, surtout que j'avais une trentaine d'années. Après des hésitations, j'ai accepté finalement de rentrer dans une liste, mais à titre de conseiller municipal. Et comme je le raconte dans le livre, grâce à une fusion avec une liste plus à gauche, nous avons été élus.
Justement,
alors que personne
s'y attendait.
Ne s'attendait à notre élection, puisque le maire, à l'époque, était bien en place. Et à mon étonnement aussi, la personne qui m'avait sollicité, qui avait monté la liste, qui était... Un profession libérale du coin, n'a pas voulu prendre le poste de maire.
Donc il s'est offert à vous.
Personne n'était décidé à être maire, parce que personne ne s'attendait à qu'on soit élu au point de l'être, de pouvoir l'être. Et donc, après quelques hésitations, j'ai accepté. Il faut dire qu'ils ont dû quand même me travailler un petit peu au corps, comme on dit, et finalement j'ai accepté le poste.
Mais quel souvenir vous gardez de cette première victoire, quelque part? C'était juste pour vous quelque chose d'un peu amer? Vous avez dit, oh non, j'en voulais pas?
C'est tout à fait exceptionnel. Je dis pas qu'une victoire aux élections, ça fait pas plaisir, parce que c'est quand même une certaine reconnaissance. Surtout que j'étais quand même assez récemment arrivé dans la population. Il y avait 3 ans que j'exerçais, donc... J'étais encore un petit nouveau, donc ça fait toujours plaisir d'être reconnu, mais j'ai quand même été surpris, surtout que j'ai été élu au premier tour. J'ai encore plus été surpris quand je me suis retrouvé maire. Il faut dire que l'étonnement dans la ville a été aussi important qu'il l'était pour moi, parce que personne ne s'attendait à ce que notre liste soit élue.
Mais c'est comme ça que ça a commencé.
Il y a des familles entières qui se sont fâchées à l'occasion de ces élections. Ça avait été épique.
Ça devait être un mandat particulier. Donc.
Parce qu'en fait, les deux familles des têtes de... Enfin, qui auraient dû être des têtes de liste, étaient très opposées, même sur le plan professionnel. C'est un conflit qui s'était envenimé à cette occasion-là. Et donc, ça a été une stupeur quand... On a vu que ils sont même demandé s'ils n'étaient pas tombés sur la tête, certainement, parce qu'ils ont dit, est-ce que ce petit jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Et est-ce qu'il est capable de tenir la ville? Enfin, bref, je pense qu'il y en a qui ont dû se poser des questions.
Oui. Bon, c'était qu'une première victoire, quelque part, parce qu'après, vous avez été aussi président du conseil départemental, si je ne me trompe pas, de 94 à 2015. D'ailleurs...
C'est plus loin.
Plus après, loin
J'ai été d'abord... Donc j'étais maire réélu chaque fois pendant 30 ans. Mmh. Et puis j'ai été ensuite, assez rapidement, parce que le conseiller général du secteur est tombé malade, j'ai été assez rapidement élu conseiller général.
D'accord. Donc ça
arrive. Et quelques années après, donc j'ai été élu conseiller général pour la première fois en 1976. Et ce n'est qu'en 94.
Donc c'est 94, président.
94 que j'ai été élu à la présidence. Après avoir été pendant plusieurs années vice-président d'un président, de Bernard Biulac, qui a été président aussi pendant une dizaine d'années.
Je vous avais déjà rencontré à Périgueux, dans ma jeunesse. Il y avait les conseillers départementaux juniors, donc on fait venir des jeunes de chaque collège, et on en est liés, et on est lié, pardon. Et j'en étais un, et je vous ai vu, vous étiez venu nous voir dans l'assemblée, faire un petit discours, tout à fait. Donc voilà, le mois de 14 ans, se souvient très très bien de vous.
Donc c'est un souvenir,
c'est un souvenir
de jeunesse.
C'est un souvenir de jeunesse, tout à fait. Ouais. Bah, c'était quand même impressionnant d'avoir les micros, d'être à votre place quelque part dans l'Assemblée. C'était très sympathique. Ma question était, quelles ont été, selon vous, les grandes transformations du Périgord durant toutes ces années? Qu'est-ce que vous avez vu défiler?
Écoutez, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'en relate quelques-unes dans le livre, mais mon livre, c'est un livre de souvenirs. C'est pas une biographie politique avec des catalogues. Ça aurait ennuyé tout le monde. Donc c'est un livre plutôt d'anecdotes, de souvenirs. Ce qu'il en reste après, à la fin d'une vie, parce que quand j'ai écrit le livre, j'avais déjà plus de 80 ans et donc... les souvenirs s'estompent, ou alors les choses se diluent, ou se refont. Enfin, j'ai essayé de retrouver un petit peu les choses importantes. Alors, je dirais que j'ai quand même beaucoup fait sur la région de Ribérac, hein, dans un premier temps. Puis ensuite, quand j'étais au Conseil Général, j'ai continué une partie de ce qui avait été fait précédemment par mes prédécesseurs, c'est-à-dire... une politique très économique, à la fois une politique économique, et pour que cette politique économique fonctionne, parce que en fait l'économie n'est pas le rôle principal du département, c'est souvent la région, mais le département il joue un rôle en suivant ses entreprises. Alors, pour que qu'il y ait un développement harmonieux de cette économie, il fallait désenclaver la Dordogne, et ça a été une partie importante de ma fonction, de développer les liaisons dans la Dordogne. Il y a eu bien sûr l'autoroute qui s'est fait, l'autoroute en 89, qui s'est fait pendant une partie de mon mandat. Il avait été commencé avant, mais qui s'est développé une partie de mon mandat. Et puis à partir d'autoroute, tout un développement, et je dirais même, puisque nous sommes à Bergerac, que je suis à l'origine d'un désenclavement important de Bergerac, à la fois par le désenclavement par le sud avec l'État, et le désenclavement par l'ouest avec la liaison entre la route de Mussidan et la route d'Agen. Cette déviation qui a contribué largement à permettre aux Bergeracois parfois d'éviter la ville, qui est souvent très encombrée. Le Bergeracois, j'ai dit, a été certainement la ville que j'ai le plus désenclavée. J'ai aussi fait le désenclavement de Sarlat, c'est important.
Et
j'ai pas
complexe.
Pu faire le désenclavement de Périgueux, mais personne n'a pu le faire aujourd'hui, parce que Yves Guénat, qui avait été son maire pendant longtemps, n'y a pas pensé suffisamment tôt, et lorsque c'est bâti, c'est difficile de convaincre les gens de laisser leur place pour faire des routes. Donc une politique importante de désenclavement routier à la fois sur l'ensemble de la Dordogne, mais beaucoup sur le Bergeracois, pas mal sur le Sarladais, et aussi sur la zone Ribérac-Périgueux, qui a été désenclavée autour de l'autoroute à 89. Et notamment l'axe, par exemple, Angoulême-Ribérac-Mussidan-Bergerac-Agen, c'est un axe sur le secteur de la Dordogne que j'ai bien développé. Pour vous donner quelques exemples. Bon, puis il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine du patrimoine, parce que le Périgord, c'est quand même, après l'Île-de-France, la zone en France où il y a le plus de patrimoine. On parle des 1001 châteaux, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Superbes églises romanes. Et puis, il y a une chose importante qui a été faite, c'est la préhistoire. Donc c'est la chose la plus importante, sur laquelle je donne quelques précisions dans le livre. Il était connu que dès le départ, depuis le début, depuis la période de Bernard Biolac, qu'il fallait faire quelque chose autour de la préhistoire. Parce que l'histoire de la Dordogne et de Lascaux, c'est l'histoire de notre histoire et l'histoire de la préhistoire.
C'est trop gros pour ne rien en faire.
De nos ancêtres. Et il est certain, alors il y avait eu bien sûr du temps de mes prédécesseurs, même de Michel Manet et de Bernard Biolac, il y avait eu le développement de ce qu'on appelait Lascaux 2, c'est-à-dire la petite grotte qui a été faite autour de la grotte primitive, qui a été faite très rapidement. Ça avait déjà été fait, et ça fonctionne d'ailleurs toujours. Je l'ai d'ailleurs restaurée un peu plus tard, parce qu'elle commençait aussi à vieillir. Et puis, ce qui a été surtout important du temps où j'ai été président, c'est le développement de Lascaux 3 et de Lascaux 4, c'est-à-dire les deux sites de Montignac et des Aïzis, aux Aïzis où on a fait un centre de la préhistoire, avec de l'activité autour, l'histoire, et qui a un rôle surtout d'ailleurs aussi, non seulement historique, mais aussi touristique, très touristique, dans le centre des Aïzis, et puis ensuite Lascaux 4 à Montignac. Précédemment d'ailleurs, afin de vulgariser dans le monde, parce que finalement la grotte de Lascaux, personne ne peut la voir à part quelques préhistoriens qui ont le privilège de pouvoir la visiter, puis quelques présidents de la République quand ils viennent par hasard à Montignac. Personne, ni en Dordogne ni dans le monde, ne peut plus la voir. Donc il a fallu trouver des solutions. Et les solutions, c'est Lascaux 2 puis Lascaux 4,
qui vous avez présenté,
à développer de manière à la fois sur le plan internet et sur le plan de la présentation, tous les problèmes que l'on se pose autour de Lascaux. Et puis, comme il fallait aussi que les gens qui sont ailleurs, qui ne peuvent pas venir, qui sont dans le monde entier, puissent aussi bénéficier d'une connaissance de cette préhistoire et de ce joyau que nous avions en Dordogne, nous avons fait Lascaux 3, qui a été un centre qui s'est promené dans le monde entier aujourd'hui, puisqu'on pratiquement a commencé par ça a été inauguré à Bordeaux, puis on a fait les États-Unis.
Vous étiez à Tokyo aussi.
Les États-Unis, le Canada, le Japon. Et puis ensuite, mes successeurs ont continué avec d'autres pays, la Belgique, enfin d'autres pays importants. Actuellement, il fait le tour du monde. Donc, c'est une manière aussi de faire connaître à la fois notre richesse, mais aussi notre existence. Et d'avoir une action sur l'impact touristique qui est une des économies principales de la Dordogne, il faut bien le dire. Nous ne sommes pas un pays industriel, malheureusement.
Non, mais heureusement.
Actuellement, on voit quand même quelques problèmes qui font qu'on perd même quelques entreprises importantes ou qu'on va les perdre. Mais nous sommes une économie touristique forte. Il est important de faire connaître notre pays pour les faire venir du monde entier.
On l'entend beaucoup dans votre discours, mais on le voit aussi beaucoup dans votre livre. Vous parlez beaucoup de proximité, du rapport à la proximité avec les habitants. Quel a été, selon vous, l'importance que ça a eu le terrain dans vos décisions? Est-ce que c'était vraiment au cœur de tout?
Le terrain?
Oui.
C'est-à-dire le...
Chez vous, presque. Si on devait parler, bah, c'est-à-dire l'endroit d'où vous venez. Est-ce que tout ça, c'était important pour vous? C'était très important d'avoir ce contact avec les gens?
Je crois que, bon, c'est la base de tout élu. Le relationnel.
Hein. Ce que vous avez dit avec votre début en médecine, c'est que ça partait de ça, en fait. Ça partait de se faire des contacts.
J'avais un sens quand même très, très, très social-démocrate. J'ai toujours été essentiellement un social-démocrate. J'ai un peu bougé dans les différentes formations où j'ai été, mais c'était toujours dans le même cadre. En fait, je suis plus un social-démocrate de type européen ou de type Europe du Nord qu'un véritable socialiste ou un véritable radical ou un véritable centriste, quel qu'il soit. J'ai toujours ce sentiment que ce qui importe dans la politique, c'est quand même la relation avec les gens et leur devenir.
Le social.
Il faut essayer de leur faciliter les choses. Ce qui a été fait d'ailleurs, ce qui est toujours fait, je crois, mais ce qui a été fait pendant mes mandats, à l'époque, j'avais développé quand même de manière importante les différentes aides chaque fois que c'était possible et une partie importante peut-être la partie la plus importante du budget du département est le budget d'aide sociale.
Votre livre est plein d'anecdotes et plein de souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous en partager un moment marquant, peut-être inattendu, de vos 50 ans de vie politique? On a parlé, c'est vrai que votre première élection déjà c'était inattendu. Est-ce que vous avez autre chose on va dire aussi concret?
J'ai pas mal d'anecdotes que je range. Bon, ce qui m'a quand même... Il y en a un certain nombre de choses qui m'ont marqué. Par exemple, l'affaire de l'élection de Gérard Fayol, que je raconte dans le livre, et qui est un moment quand même important de la vie politique en Dordogne. Ils viennent de décéder. Donc, j'ai vu qu'on lui a rendu pas mal hommage de la part de certains, pas de tous, mais il y a quelques-uns qui étaient...
Persico,
même
par exemple.
Parmi ses amis qui n'étaient pas là, mais c'est classique en politique. Mais on lui a rendu hommage, et son élection qui a été quand même une véritable histoire politique en France. Ça avait remué... tous les journaux français parlaient de l'hypnotiseur, de celui qui avait hypnotisé un candidat qui avait voté contre son camp.
Ça, c'est marquant pour vous.
Ouais. Ça a été quand même... Ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit, oui. Ça a été important. Ça fait partie des erreurs qu'on se reproche un peu par la suite.
Vous y repensez?
Pas d'y être directement responsable.
Oui, bien sûr, oui, mais vous y repensez.
Mais peut-être d'avoir laissé faire. Ou d'avoir eu plaisir à ce que ça se passe, au moins dans un premier temps. Donc ça fait partie des... En politique, on fait toujours des erreurs. Tout le monde en a fait. Et
d'autres en feront.
Et ce qui est important, c'est que ça vous profite. Ça vous évite de recommencer. Mon élection en tant que sénateur aussi, parce que la première fois, j'ai été élu à 4 ou 6 voix, là, de près.
Oui, ça s'est joué vraiment à rien.
Donc, l'attente devant les urnes, avec des missi dominici qui chacun venait me dire « t'es élu ou t'es pas élu, ça va bien ou ça va mal », ça a été aussi une période...
C'était particulier.
C'était aussi une période, et puis j'ai eu d'autres périodes importantes, notamment dans ma vie de sénateur. Des rencontres quand même exceptionnelles.
Parce que tous les présidents. Hein.
Oui, que ce soit avec des élus politiques. Pierre Mauroy, Lionel Jospin, François Mitterrand d'abord, puisque c'est lui qui m'a amené au socialisme. Puis Pierre Mauroy, que j'ai bien connu. Lionel Jospin, Laurent Fabius, j'étais dans le groupe. Dominique Strauss-Kahn, qui sont des gens qui intellectuellement, alors je ne parle pas...
Mais intellectuellement,
m'ont marqué, incontestablement.
Pour finir, après un tel parcours, on en a beaucoup parlé, Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les lecteurs, les auditeurs d'Happy Radio retiennent en priorité de ce livre ?
Bah, je crois qu'il faut qu'ils retiennent que la vie politique, c'est pas simple. Ça, d'abord, on a tendance à penser que les politiques, comme on dit, c'est tous des pourris. Bon, bah, y en a aussi qui agissent à leur niveau. La vie politique au niveau national, c'est très dur. Je n'ai jamais voulu m'impliquer trop fortement là-dedans. Parce que c'est très très dur et très ingrat. Bon, mais la vie politique au niveau départemental et au niveau régional est une politique aussi parfois dure, parfois ingrate, pas comprise. Puis il y a des tendances. Il faut dire qu'en Dordogne, on aime bien être aidé, faut être très présent. On vient vous voir pour des bricoles qui se régleraient à un autre niveau, mais les gens ont pris l'habitude, depuis Robert Lacoste, certainement, peut-être bien avant lui, ont pris l'habitude et ils ont besoin, ils ont envie d'être aidés, ils ont envie de rencontrer leurs élus, ils ont envie de parler d'eux et parfois de solliciter. C'est très périgordin.
La proximité.
Donc je crois qu'il faut savoir le faire. Si on ne sait pas faire ça, on dit que c'est du clientélisme, mais non.
La relation de proximité.
C'est de l'aide. Bon, si ça vous fait une clientèle...
c'est tant mieux.
ça vous permet d'être élu ou d'être mieux connu. Bon, c'est pas absolument négatif. C'est un besoin qu'ont les Périgourdins, justement, d'avoir quelqu'un qui est là présent et qui, in extremis, peut les aider à trouver un emploi, à régler un problème contentieux, personnel... à permettre d'avoir une aide exceptionnelle que l'on peut solliciter. Voilà. Je crois que c'est ça aussi qui est important en politique.
Merci beaucoup, Bernard Cazot, d'avoir été avec nous ce matin. Votre livre « 50 ans de vie politique en Dordogne » est réalisé en entretien avec le journaliste Hervé Chassin. Il est publié aux éditions Les Livres de Lilo, un témoignage précieux sur l'histoire récente du Périgord et ses coulisses politiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Une rubrique à écouter et réécouter sur happyradio.fr, évidemment. À la prochaine, tout le monde.
Vous venez d'écouter la rubrique littéraire sur Happy Radio. À retrouver en podcast sur happyradio.fr. Happy Radio.